si vous voulez...
Vous voulez le règle pour taper sur la table ?
Si vous le voulez bien, on va... Je disais, si vous le voulez bien, on va commencer. Le temps que tout le monde s'installe. Bien, au cours des deux exposés précédents, nous avons balayé à grands traits une période historique qui commence, l'histoire de notre pays, qui commence avec la victoire du camp républicain, du parti républicain en 1879 et qui s'achève quelques années après. Donc, en gros, 47 ans, donc presque un demi-siècle, au cours duquel se seront multipliés les conflits, les affrontements, les oppositions entre la politique et la religion, et dont l'aboutissement aura été en 1905, le 9 décembre 1905, l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi de 1905 est donc d'abord un aboutissement parce que c'est une sanction juridique de ce que j'ai appelé au cours de mon premier exposé la troisième révolution laïque, celle de la rupture entre Dieu et César, entre l'État et les cultes, celle qui a déterminé l'identité, celle qui détermine l'identité et les droits de l'individu en dehors de toute norme religieuse. Donc c'est un aboutissement, c'est une sanction juridique à un moment donné. Mais c'est également un point de départ, parce que la loi de 1905 pose sans doute beaucoup plus de questions qu'au départ elle n'en résout dans l'esprit des législateurs, et notamment dans l'esprit de Briand et dans l'esprit de Jaurès. C'est un point de départ parce qu'elle va régler les relations, et seulement cela, les relations entre l'État et les cultes. On dira que c'est la laïcité à la française, c'est certes une originalité, mais ça n'a pour ambition que de régler les relations entre l'État et les cultes, premier point. Deuxième point, la loi de 1905 est loin d'épuiser toutes les questions posées par la laïcité. Parce que la laïcité, c'est bien d'autres dispositifs législatifs ou juridiques. Je les rappelle, vous les connaissez, c'est les lois Ferry pour l'école, c'est les lois sur la laïcisation des cimetières, des prétoires, des hôpitaux, des armées, jusqu'à la loi du 15 mars 2004, sur la loi dite des signes, sur les signes ostensibles dans les établissements scolaires publics. Donc, la loi de 1905 n'épuise pas la question de la laïcité. Troisièmement, elle ne dit rien, cette loi, sur les religions et ce qui les définit, alors qu'elle proclame la liberté religieuse, qui est assimilée d'ailleurs dans le texte de la loi, à la liberté de conscience. Quatrièmement, elle fait silence aussi, cette loi, sur les normes éthiques, la transmission des valeurs, la culture et l'enseignement du fait religieux, y compris dans la dimension européenne. Ce n'était pas son objectif, mais il faut dire qu'elle fait silence là-dessus. On ne peut pas faire dire à la loi de 1905 plus qu'elle ne dit. C'est assez dire que ce qui est, à mon sens, un carrefour fondateur de la République est surtout un cadre dont la généralité fonde l'universalité, témoignant ainsi que la laïcité n'est jamais achevée comme réponse à l'évolution de la société démocratique. Et c'est partant de ce point de vue qu'on va essayer, dans l'exposé d'aujourd'hui, d'examiner deux points qui sont moins des points d'histoire que des points de sociologie. Premier point, la loi de 1905 et la différenciation publique-privée. Et deuxième point, la laïcité à la française et le fait religieux. Donc, première partie de l'exposé, le public et le privé. En instituant la séparation des églises et de l'État, la loi de 1905 a-t-elle renvoyé la religion à la sphère privée ? a-t-elle réduit la religion à une affaire privée? C'est ce qu'on entend souvent. Pour résoudre cette interrogation, qui n'est pas aussi simple qu'on le pense, ça appelle plusieurs types de réflexions d'ordre philosophique et d'ordre sociologique, donc un double détour qui nous permettra d'essayer de mieux saisir ce qu'est réellement la loi de 1905, en quoi elle est surtout un socle et pourquoi, surtout, elle est depuis quelque temps au centre d'une offensive politique et idéologique d'assez grande ampleur, jusque et y compris au sommet de l'État. Tout d'abord, une question de définition de vocabulaire. En droit et public, ce qui concerne les citoyens d'une nation et les membres d'une communauté politique. Et privé, ce qui concerne un ou plusieurs individus librement associés dans un groupe, que ce groupe soit une confession, une philosophie, un courant de pensée, une formation politique. Dans ce contexte, en ayant bien en tête ce qu'est le public et ce qu'est le privé, le caractère collectif d'une confession, d'une philosophie ou d'un courant de pensée ne lui confère a priori aucun statut public. C'est pas parce que c'est collectif que c'est public. Et public, ce qui correspond à ce qui est universellement partagé. La religion est donc une affaire privée parce que l'État refuse d'aliéner si peu que ce soit une part de l'espace public à un credo particulier, préservant ainsi sa neutralité, donc celle de l'État, ce qui lui permet d'être ouvert et consacré à tous. C'est le sens de la phrase de Rousseau dans Le Contrat social. Toute restauration d'emprise publique d'une religion serait une usurpation. La loi de 1905 ne se prononce pas sur les relations entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Elle ne parle pas d'opposition entre la politique et le religieux. Et elle ne fait pas état des notions de public et de privé au regard de la religion. Mais elle est différente du concordat qui avait précédé donc et qui a, de 1801 à 1905, régi les rapports entre l'État et les Églises. Le concordat faisait du culte un élément de droit public. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que les édifices religieux étaient les biens nationaux, que les paroisses, que les évêchés, que les séminaires étaient des établissements publics et que les prêtres étaient salariés de l'État. La loi de 1905, notez-le bien, elle désétatise ou elle privatise les cultes. Elle reconnaît l'indépendance d'une sphère religieuse privée qui implique par là même une délimitation du domaine d'intervention de la loi. L'État ne favorise plus une ou plusieurs options spirituelles. Sous le concordat, le régime des cultes reconnus, qui existe encore en Alsace-Moselle et dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, l'État reconnaissait un certain nombre de cultes. Il y en avait quatre sous Bonaparte, c'est-à-dire les deux protestants, le catholique et les juifs. Là, l'État reconnaît l'indépendance de la sphère religieuse privée, délimite bien son champ d'intervention et ne favorise aucune option spirituelle. Et il n'en impose donc aucune. Et par là même s'affirme symboliquement comme le garant de ce qui est partagé par tous. Je reviens à ce que je disais la semaine dernière, c'est l'expression latine « neuter », neutre, ni l'un ni l'autre, au-dessus. C'est ce qu'avait, je vous le rappelle, mais je crois que ça avait été expliqué par Michel Naudin, c'est ce qu'avait tenté avec l'édit de Nantes de faire Henri IV pour la première fois, alors dans des conditions très délimitées, un contexte très particulier, en externalisant l'État par rapport aux confessions. Il y en avait deux à l'époque. Alors certes, il y avait la plus grande, qui étaient les catholiques et les protestants avaient quelques droits, mais il y en avait deux. Donc, de ce fait-là, l'État était au-dessus, à part, en dehors. Il faudrait essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. La loi de 1905 est fondamentalement une loi laïque, pour la laïcité et une loi de la laïcité, parce qu'elle distingue la souveraineté du peuple, le laos, de la liberté de conscience de chaque individu. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la souveraineté du peuple, exprimée dans l'État et à travers un certain nombre d'institutions, et de l'autre côté, il y a la liberté de conscience de chacun des individus. Elle distingue donc la personne publique, c'est-à-dire vous et moi en tant que citoyens, membres de la communauté politique, membres du démos, comme disent les Grecs, de la démocratie. On distingue donc cette personne publique de la personne privée, c'est-à-dire vous et moi en tant qu'êtres humains, libres, irréductibles à son statut politique et indépendants de ce statut. C'est ça la grande novation de la loi de 1905, c'est distinguer la personne publique de la personne privée et assigner à la religion une place dans la sphère privée. C'est pas la dévaloriser, c'est garantir l'individu contre toute emprise totalitaire. C'était bien ce qui se passait au XVIIe siècle sous Louis XIV, le fameux principe latin cuius regio et ius religio, c'est-à-dire la religion, j'ai la religion du prince. La séparation de l'Église et de l'État en assignant à la religion une place dans la sphère privée préserve l'individu de l'emprise totalitaire de l'État qui lui dit tu seras catholique. Et si tu n'es pas catholique, eh ben, on t'exile, ou tu t'en vas, ou on te persécute, etc. C'est donc la loi de 1905 qui est une garantie contre toute forme de théocratie, c'est-à-dire de pouvoir reposant sur la religion. D'autre part, la loi de 1905 fixe une identité entre la liberté de conscience, d'une part, c'est-à-dire je pense et je crois ce que je veux, et une égalité de principe entre tous les hommes. Après tout, mon option spirituelle vaut ton option spirituelle. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Enfin, si les individus sont maîtres de leur conscience, donc maîtres de tout ce qui n'a aucun impact sur la vie commune, ils ne sont pas pour autant fermés au dialogue avec autrui, à ce qu'on appelle l'intersubjectivité. La sphère privée ne signifie pas méconnaître la dimension collective d'une religion. L'existence d'une sphère privée reconnue par la loi fonde une limite protectrice. Les pensées, les convictions, la foi des individus relèvent de leur seule liberté. Il s'agit pour l'État de faire en sorte que soit exclue toute discrimination en fonction de l'exercice de cette liberté. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes juif, vous êtes musulman, vous avez le droit, parce que ça appartient à votre liberté de conscience, ça appartient à votre sphère privée, d'exprimer dans l'espace public cette religion, cette foi. L'État a pour mission de faire en sorte que soit exclue toute discrimination en fonction de l'exercice de cette liberté et que soit bannie toute intervention autoritaire pour contraindre les consciences par la peur, l'endoctrinement ou la pression morale. C'est-à-dire que de la même manière que n'importe quel individu peut exprimer la foi à laquelle il croit, et l'État lui garantit cette liberté religieuse, l'État préserve tous les autres qui ne pensent pas comme l'individu X de toute pression morale, de tout endoctrinement possible. C'est une pensée qui n'est pas si moderne que ça, c'est la pensée de Spinoza au XVIIIe siècle. Spinoza qui dit, et c'est une admirable phrase du traité théologico-politique, qui, à mon avis, résume tout à fait l'économie de la loi de 1905. La puissance publique ne doit s'inquiéter que des actes, car eux seuls peuvent nuire à la communauté et aux particuliers. La seule raison pour laquelle les magistrats ont une souveraine autorité pour interpréter les lois et un souverain pouvoir de juger des choses d'ordre public, c'est qu'il s'agit d'ordre public. Pour la même raison, donc, une souveraine autorité pour expliquer la religion et pour en juger appartient à chacun, je veux dire, parce qu'elles sont de droit privé. L'État juge ce qui est public, chaque individu juge de sa religion parce que c'est une chose d'ordre privé. On a vu donc une deuxième étape en ce qui concerne le public et le privé. La troisième étape, ça serait d'en tirer les conclusions. Première idée, la laïcité et la parole libre. Si l'État est extérieur par rapport à toute religion, à toute conviction, à toute pensée religieuse, cela signifie donc que toute parole est libre, dans le respect de la loi, bien entendu. Mais elle est libre, toute parole est libre, parce qu'elle est l'expression de ma liberté de conscience. Dès lors, et c'est un problème aux dimensions d'actualité, comment faire, comment éviter de faire un amalgame entre la critique irrévérencieuse d'une confession quelconque et l'injure faite à une personne ou à un groupe ad hominem en tant que tel en référence à sa confession. Vous voyez à quoi je veux faire allusion, c'est aux caricatures de Mahomet. Est-ce que ça ressortit à la critique irrévérencieuse d'une confession et donc à ma liberté de parole au nom de ma liberté de conscience, ou est-ce que ça peut être considéré comme une injure faite à une personne ou à un groupe, ad hominem, donc en tant que personne, en tant qu'homme, en référence à sa confession? Si la laïcité proscrit l'injure xénophobe et l'imputation raciste, elle n'a jamais interdit ni la parole polémique, ni la critique publique. Donc la laïcité suppose vraiment une parole libre. Deuxième aspect des choses, que j'intitulerai laïcité, neutralité confessionnelle et société. Peut-il y avoir une sphère privée qui n'ait aucun rapport avec la sphère publique? Et question corollaire, y a-t-il une neutralité de l'État possible par rapport aux confessions? La loi de 1905 établit que la neutralité confessionnelle du pouvoir public politique répond à l'existence d'une sphère privée. C'est clair. Il y a neutralité de l'État parce qu'il y a neutralité de la puissance publique parce qu'il y a une sphère privée. C'est un premier point. Deuxième point, la loi de 1905 établit que la puissance publique respecte d'autant mieux sa frontière qu'elle a su d'emblée s'interdire toute préférence. Si l'État est suspect d'avoir une préférence envers telle ou telle confession, il ne respectera pas sa neutralité. C'est une question qui est d'actualité. C'est la question qu'on a posée au moment du discours du Latran et du discours de Riyad de l'actuel président de la République. Troisième point. En établissant une sphère privée, la loi de 1905 garantit le droit à la liberté religieuse et interdit tout privilège clérical dans l'espace public et dans la société. Tout le monde est égal, tout le monde est sur le même pied. Et enfin, la loi de 1905 ne commet pas de contresens. La liberté religieuse est une liberté personnelle, parce qu'elle englobe la pratique individuelle d'un culte, mais aussi son expression et sa pratique collective dans des lieux et dans des conditions propres à assurer les mêmes droits aux autres convictions et confessions. Donc c'est une liberté personnelle qui s'exerce dans l'espace public de manière égalitaire pour chacune des confessions. là aussi, ça pose une question d'égalité par rapport au nouveau culte, ce qui n'existait pas en 1905. Cela dit, ça ne change pas la nature de la loi, la nature de principe de la loi. C'est l'application de la loi qui est posée. Si c'est une liberté personnelle, et il faut qu'elle soit garantie, que son exercice soit garanti publiquement. Le statut juridique de la religion va du même pas, le statut juridique privé de la religion va du même pas que la reconnaissance de la dimension collective d'une religion. Et cette neutralité, eh bien, on peut le voir comment elle s'exprime dans l'espace public. Prenons deux organisations de solidarité. L'une s'appelle le Secours catholique et l'autre le Secours populaire. L'État les reconnaît comme organisation de solidarité, indépendamment du fait que l'une est catholique et que l'autre n'a pas une philosophie civique ou citoyenne ou comme l'on voudra. Mais sont reconnus dans l'espace public par l'État le Secours catholique et le Secours populaire en tant qu'organisation de solidarité. De la même manière, les autorités religieuses, confessionnelles, catholiques, protestants, juifs, ont fait partie ou font partie du Comité national d'éthique. C'est légitime à la condition que toutes les autres sensibilités, y compris celles qui ne sont pas religieuses, puissent participer aux délibérations du Comité national d'éthique. Au même titre, l'État n'a pas à privilégier le point de vue. Ce n'est pas une question qui est abstraite. On va discuter d'une loi sur la bioéthique dans quelques semaines ou dans quelques mois à l'Assemblée nationale. Le Comité national d'éthique donnera son point de vue. Si le point de vue est biaisé par la présence massive, c'est pas le cas, hein, par la présence massive de confessions à l'intérieur du Comité national d'éthique, ça pose un réel problème. Qu'il y ait des représentants des églises catholiques, protestantes, des confessions israélites, de toute autre musulmane, etc., etc., ne gêne pas en soi dans la mesure où effectivement tous les autres y sont. Enfin, comment aujourd'hui s'exprime la question de comment peut-on interpréter la question, le rapport entre laïcité et espace public et espace privé? Il y a plusieurs courants dans l'affaire. Alors, j'ai essayé c'est assez compliqué, mais j'ai essayé d'en faire une typologie. La première typologie, le premier courant, donc du rapport entre laïcité, espace public et espace privé, c'est l'expression qu'a employé le professeur Jean Bobéro, il appelait ça l'intégrisme républicain. Il dit voilà, c'est pas forcément d'ailleurs péjoratif. C'est bien que le terme intégrisme ait une connotation particulière. Dans cette optique et ce courant, la liberté de conscience est au cœur de la question laïque. La question de la liberté religieuse est considérée comme annexe. Ce courant laïque, intégriste ou intégral, comme l'on voudra, insiste d'abord sur la nécessaire autonomie de l'État vis-à-vis de toutes les croyances, beaucoup plus que sur l'égalité des cultes et les responsabilités qui en découlent pour la puissance publique. L'accent est donc très appuyé sur le caractère privé de la religion, au point que dans un certain nombre de prises de position de ce courant, on pourrait penser que l'expression publique du culte n'est pas conforme à la laïcité. Vous vous souvenez, dans les précédentes interventions que j'ai faites, ces courants anticléricaux, dont sans doute ce courant laïque intégraliste, si vous voulez, et l'héritier, ces courants anticléricaux qui luttaient contre la visibilité de l'espace des catholiques, en particulier la religion catholique, dans l'espace public. Mais cela a des conséquences, effectivement, dans le vocabulaire ou dans la problématique. Dans la problématique d'aujourd'hui, la problématique contemporaine. Par ce courant, on entend, par exemple, des idées du type « l'enseignement des religions à l'école, c'est un marchepied offert à un renouveau d'influence des églises ». ou on entend pire, l'islam serait insoluble dans la République laïque. Ce sont des questions qu'on abordera un peu plus tard. En fait, pour ce courant, et je crois qu'il faut le réhabiliter, même si on peut discuter avec, la laïcité est d'abord une figure philosophique de l'humanisme. Le pluralisme de la société est parfois, et trop souvent d'ailleurs par ce courant, perçu comme une menace pour la laïcité de la République. Et il y a quand même parfois aussi des résurgences de l'anticléricalisme militant. On peut difficilement séparer, là aussi parfois, pas toujours, d'un résidu d'anti-religiosité. C'est le premier courant qu'a dénoncé Jean Bobéro dans un livre qui s'appelle « L'intégrisme républicain contre la laïcité », disant « ça dessert la laïcité ». C'est un sujet de débat. Deuxième courant possible, donc, l'appréciation des rapports entre laïcité, espace public et espace privé. Le deuxième courant de pensée, c'est un courant de pensée qui, en gros, a accepté et considère que la voie de séparation de l'Église et de l'État est une bonne chose, que ça a permis de libérer même les Églises d'une certaine servitude qui était celle du Concordat, d'un contrôle politique qui était celui de l'État à travers le Concordat. Mais ce courant-là considère que les démocraties ont besoin, pour s'affirmer, de confrontation d'idées. Et ce courant-là appelle les Églises à tenir une place dans la société civile pour confronter leurs idées avec celles d'autres courants, d'autres associations, d'autres syndicats, d'autres partis politiques. Et c'est donc dans ce courant-là l'articulation entre la sphère privée et le domaine public qui est posée. Autant le premier courant a tendance à dire plus de religion dans l'espace public, autant celui-ci, et c'est le courant que partagent d'ailleurs la plupart des catholiques, puisque c'est le courant qui a été défini notamment par le rapport d'Agence, qui est un rapport des évêques de France qui doit dater d'une dizaine d'années maintenant, 7 à 8, peut-être un peu moins d'ailleurs, et qui donc accepte la laïcité comme étant un progrès, mais considère que effectivement les églises, l'expression publique des églises, des croyances, des convictions issues de la transcendance ont une valeur au-delà de la sphère privée. Mais ça crée des paradoxes. On ne se choque absolument pas, à l'exception du ministre de l'Intérieur, que les églises interviennent quand il s'agit de prendre position dans l'affaire des sans-papiers. On dit, c'est très bien, l'Église catholique a pris position, l'Église protestante ou telle autre confession a pris position. Mais c'est un paradoxe. Parce que quand la même Église catholique prend position sur le Pax, on dit, ah non, dans la sphère privée. Il y a donc une contradiction dans l'exercice même de cette laïcité. C'est-à-dire que si on admet que les églises, les confessions et les convictions religieuses peuvent s'exprimer dans l'espace public, ça ne peut pas être conditionné par le contenu. Ça pose effectivement le problème du rapport d'une institution, d'une confession, par rapport à l'espace public, et comment il peut y avoir confrontation des idées. C'est le deuxième point. Si vous voulez, le deuxième modèle, la deuxième possibilité, le courant laïciste, avec beaucoup de guillemets, beaucoup de précautions, et en m'excusant à l'avance, s'il y en a qui pouvaient être choqués par l'expression laïciste. Mais il faut trouver un mot. Hein. C'est le premier courant laïciste, la religion, espace privé. Deuxième courant, non, tout à fait d'accord, séparation de l'Église et de l'État, complète. Mais pourquoi ne pas se servir du point de vue des églises, des confessions, des croyances, des convictions religieuses, des convictions issues de la transcendance, comme on dit, dans le débat public. Mais ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Reste un troisième courant, qui s'est affirmée au cours des dernières années et qui a été notamment portée par le philosophe Régis Debray, qui est le courant dit républicain ou le courant dit de laïcité plurielle. Ce courant-là est en désaccord avec le premier que j'ai cité tout à l'heure, le courant laïciste. Mais il s'interroge aussi sur le deuxième courant, c'est-à-dire sur la place que peuvent avoir les églises et les courants religieux dans le débat public. Ce courant-là, on pourrait le qualifier de multiculturaliste en ce sens qu'il encourage l'expression des différences dans la société et qu'il ne considère pas le pluralisme des cultures dans la société comme une menace pour l'unité nationale. Ce sont ces trois courants qui se partagent à l'heure actuelle, donc l'espace public dans les rapports entre laïcité et confession. C'est ces trois conceptions-là qui se confondent. Je conclurai sur cette première partie par une simple question. Peut-on avoir une conclusion sur cette affaire du public et du privé? Et je me servirai là aussi d'un ouvrage du professeur Roubero, qui est intitulé « Laïcité 1905-2005 entre passion et raison » et qui est paru donc en 2005 aux éditions du Seuil. Bobéro, dans l'introduction de cet ouvrage, dit « Toute enquête sur la laïcité révèle le plus souvent un certain nombre de formules toutes faites, du genre « Encore, il est trop question de la religion » et l'athéisme, vous en parlez ? On parle trop des positions du pape, c'est le cas en ce moment d'ailleurs. Bobéro dit, derrière tout ça, derrière ces expressions toutes faites, il y a en fait, une fois de plus, l'enjeu permanent entre le public et le privé. Et c'est si vrai que on retrouve ces formules un peu plus travaillées, du genre la religion refuse de se cantonner dans la sphère privée. Refuse de se cantonner dans la sphère, La religion refuse de se cantonner à la sphère privée. Elle intervient dans la sphère publique. Mais, d'un autre côté, vous entendez les mêmes dire, la religion ne cesse d'empiéter sur la vie privée. Par exemple, la sexualité. Eh oui. Il n'y a rien de plus privé, me semble-t-il, que cela. Donc, il y a bien une contradiction là-dessus. Il y a une contradiction parce qu'il y a, sans doute, dit Jean Bobéro, une accélération de la sécularisation de la société, des sociétés en général, et de la société française en particulier. Il dit, en effet, on est passé de la religion comme institution à la religion comme association. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? C'est un organisme qui prend en charge un domaine de la vie sociale dont le sens et la valeur ne dépendent pas a priori du choix privé. L'école est une institution. La médecine est une institution. Il y a même un philosophe marxiste qui s'appelle Louis Althusser qui a appelé ça des appareils idéologiques d'État. L'Église était une institution. L'Église n'est plus une institution à partir effectivement du moment, et c'est avant 1905, où le courant associatif s'est mis à traverser les confessions. Ça n'a pas commencé par l'Église catholique, ça a commencé par les religions minoritaires. Par exemple, avec les protestants, dans les années 1860, avec le mouvement dit du réveil. C'est un courant associatif. Ou, dans le fin du XIXe siècle, par la création, avec la religion israélite, de l'Alliance israélite universelle. Les catholiques, par contre, sont restés l'institution. Vous savez, on l'a déjà expliqué dans un précédent exposé, l'institution romaine, la place de Rome essentielle dans cette structure pyramidale qu'est la religion catholique. Mais 1905 est passé là-dessus. Et donc, on se trouve aujourd'hui confronté à une structure institutionnelle que demeure théoriquement l'Église catholique, et en même temps, à l'intérieur même de l'Église catholique, un dynamisme beaucoup plus grand que celui de l'institution, de toute une série d'associations qui ont été créées autour de la loi de 1905, soit en amont, soit en aval. J'en ai parlé la semaine dernière, la jeunesse ouvrière catholique, la jeunesse étudiante chrétienne, la JAC, etc. Voire même, d'ailleurs, ça avait été initié par un des papes qui s'appelait Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, ce qu'on a appelé l'action catholique. En vertu de ce principe que le christianisme doit pénétrer tout l'homme et toute la société. D'où la différenciation. Il y a une structure qui demeure une structure pyramidale, qui est une structure institutionnelle, et de l'autre côté, il y a effectivement une structure associative, la religion, devenant de plus en plus un moyen d'association des hommes et des femmes, plus que d'entrée ou d'intégration dans une institution. Au fond, cette sécularisation a favorisé l'individualisation du vécu religieux. Le vécu religieux, il est moins vécu à travers de grandes institutions que de manière beaucoup plus individuelle. En fait, chaque individu définit ses croyances, ses pratiques et ses normes religieuses. La religion est davantage vécue comme un service de l'épanouissement terrestre. Le relativisme, si fortement condamné par l'actuel pape Benoît XVI, conduit effectivement aujourd'hui à voir dans sa propre religion une religion possible. Mais il peut y en avoir d'autres. Et enfin, cette individualisation du choix religieux conduit à un pragmatisme, au fond, fait foi ce qui fait sens. On a la foi, mais parce qu'on cherche un sens à sa vie, à la vie de la collectivité, au combat que l'on peut mener, etc., etc. Le conflit public-privé aujourd'hui, qui était le fondement, qui est au fondement de la loi de 1905, puisque c'était quand même la place de l'État et la place des religions, ben, le conflit public-privé aujourd'hui, je serais tenté de dire qu'il se traduit par une laïcisation de la laïcité. La laïcité telle qu'elle était conçue primitivement est encore à laïciser et en permanence. C'est-à-dire que, au fond, on est passé par plusieurs phases. Première phase, au début du XIXe siècle, je vais caricaturer. L'homme, c'est la sphère publique et la politique. La femme, c'est la sphère domestique, privée et la religion. C'est même là-dessus que se sont fondés les radicaux pour s'opposer pendant des décennies à l'attribution du droit de vote aux femmes, en disant elles sont beaucoup plus sensibles au discours religieux. C'est la phase du début du XIXe siècle, ça. Hein. C'est l'homme sur le forum et la femme dans le gynécée. Deuxième phase, la phase de privatisation de la religion correspond à un essor de la modernité. Au fond, on a laïcisé l'école. On a séparé les églises de l'État. L'Église n'est plus un service public, ni une institution, mais une association. C'est la fin d'une alternative, ou bien le cléricalisme, ou bien l'anticléricalisme. En fait, la religion, l'Église, c'est devenu... La religion est devenue quelque chose de socialement désinstitutionnalisé. C'est la deuxième phase, et ça, c'est la phase de tout le XXe siècle. Et puis, nous vivons sans doute aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler rapidement une phase post-68arde. Et pour m'expliquer là-dessus, je prendrai l'exemple de la question de l'avortement et de la loi Veil en 1975. Lorsqu'on regarde les débats qui ont accompagné la loi Veil en 1975, ça a été des débats extrêmement durs. Eh bien, il n'y avait pas d'un côté l'État laïcisateur et de l'autre côté la France imprégnée de valeurs traditionnelles et catholiques. La bataille, elle s'est passée à l'intérieur de la conscience de chacun. C'est ça l'individualisation de la religion. La loi sur l'avortement, elle en est le symbole même. La décision finale concernant l'avortement, elle revient à qui ? À la principale intéressée. Chargé de faire avortement, il peut faire objection de conscience en disant non, oui, j'accepte ou non, je refuse. C'est donc chacun renvoyé à son choix privé. L'autonomie a été conquise sur les grandes institutions. Il peut y avoir en 1968 l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI, qui est l'encyclique dont se sert encore l'actuel pape. Mais en même temps, les catholiques en tant que tels, ou les croyants en tant que tels, mais surtout les catholiques, puisque c'est eux qui ont une position, enfin l'Église catholique a une position très précise sur ces questions de l'avortement, de la contraception, etc. Ben, d'un côté, il y a effectivement l'Église, il y a le discours qui apparaît de plus en plus, d'ailleurs désincarné, et de l'autre côté, il y a effectivement le choix individuel procédant de cette individualisation de la religion. Ce changement des rapports entre les individus et les institutions, et en particulier les institutions religieuses, dans les démocraties occidentales, ça génère un autre rapport, un autre type de rapport plus exactement, entre le fait religieux et la société. D'où, et c'est ma deuxième partie, la question de l'enseignement du fait religieux. Ça va ? Tout va bien ? Bon, eh bien, on continue. Je traiterai la question du fait religieux sous deux angles. Qu'est-ce qu'un fait religieux ? Et deuxièmement, l'enseignement du fait religieux signe-t-il la fin de la guerre des deux Frances ? Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un fait religieux ? Alors, un fait religieux, dans son rapport remis en 2002 à Jacques Lang, ministre de l'Éducation nationale, sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque, le philosophe Régis Debray en appelle à une laïcité d'intelligence se substituant à une laïcité d'incompétence. C'est clair, la laïcité d'incompétence n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est l'État ne reconnaît le salarié aucun culte. On est incompétent. Il dit il faut substituer une laïcité d'intelligence à la laïcité de méconnaissance ou de non-reconnaissance, si vous voulez. Et il a quelques formules qui sont assez fortes qu'il faut rappeler. Il faut avoir une approche objectivante de la religion plutôt qu'une approche confessante. Le religieux est un objet de culture. Il n'est pas un objet de culte. Donc, objectivante, confessante, culture, culte. À partir de cette distinction établie par Régis Debray, deux points que je voudrais traiter. Un point chronologique, c'est comment et quand apparaît ce principe donc du fait religieux, cette notion de fait religieux. Et deuxièmement, la définition de la notion. Chronologiquement, c'est en 91. Au colloque de Besançon que le recteur, l'historien Philippe Joutard, parle d'enseigner l'histoire des religions, mais ce n'est que 11 ans plus tard, en 2002, que le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jacques Lang, ayant demandé à Régis Debray remet à Jacques Lang le rapport qui lui a été demandé quelque temps auparavant, donc consacré à l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque. Et c'est seulement en 2004 que l'historien René Raymond, qui vient de disparaître il y a quelques mois, note dans un ouvrage collectif intitulé « L'Europe et le fait religieux » que cette expression s'impose par son objectivité, sa neutralité autant que son caractère englobant, permet aussi bien de caractériser une adhésion personnelle que de désigner une dimension sociale. Le fait religieux, c'est une adhésion personnelle et une dimension sociale. De quoi s'agit-il en fait lorsqu'on parle de fait religieux ? Eh bien, d'abord, du libre examen, documenté et critique, de phénomènes qui existent et qui, indépendamment de l'opinion qu'on peut en avoir, constituent une dimension de la vie de la société. C'est un fait. La religion, c'est un fait. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'enseigner les religions. Parce que ce n'est pas l'objet du problème. Il n'est pas question d'introduire à l'étude de quelques grandes religions, mais d'enseigner le religieux. On n'enseigne pas les religions, on enseigne le religieux. L'adjectif déborde le substantif, parce que le substantif religion, ça renvoie à des institutions et à la confession elle-même. C'est pas la même chose que le religieux. Et Régis Debray s'est servi de cette lumineuse définition du sociologue Marcel Mauss en 1904. Il n'y a pas en fait, dit-il, une chose, une essence appelée religion, il n'y a que des phénomènes religieux, plus ou moins agrégés en des systèmes qu'on appelle des religions, et qui ont une existence historique définie dans des groupes d'hommes et dans des temps déterminés. Il n'y a pas, avec un grand R, la religion, il y a des religions, il y a des phénomènes religieux, il y a des églises à partir de ces phénomènes religieux. C'est d'ailleurs comme ça que s'est constitué le christianisme. Vous savez qu'on l'a dit, c'est une secte qui a réussi. C'est effectivement au départ une secte qui agrège un certain nombre de valeurs, un certain nombre de personnes, etc., et qui se répand à partir d'un message déterminé. Chronologiquement, voilà. Maintenant, la définition. Eh bien, un fait religieux, c'est d'abord un fait historique. Il faut faire la différence, et ça c'est le travail aussi de l'historien, entre ce qui est un fait historique et ce qui est la légende, la mémoire. La légende et la mémoire, c'est pas la même chose. On s'appuie donc en histoire sur des documents vérifiés, on traque les faux, ou les choses approximatives, les notions approximatives. Et il faut dire que cette phase critique, elle est effectivement, elle peut être particulièrement choquante, pour les églises et pour les confessions, puisqu'elle suppose effectivement qu'on passe au crible de la critique ou au feu de la critique toute la structure même, toute l'histoire même d'une religion, donc la tradition. Dans l'Église catholique, on le sait, il y a eu au XIXe siècle ce qu'on appelle la crise du modernisme, qui était opposée effectivement à une lecture très traditionnelle, dans toutes les religions d'ailleurs. Chez les protestants, il y a la lecture libérale et la lecture orthodoxe. C'est vrai que considérer le fait religieux comme un fait historique, c'est qualifier effectivement les différentes lectures qu'il peut y avoir d'une confession à l'intérieur de cette confession. Donc c'est un fait historique. C'est une activité humaine spécifique, à côté d'autres manifestations politiques et sociales, il peut y avoir donc une étude du fait religieux. C'est ce que Marx appelle les infrastructures idéologiques. Il y a donc l'étude possible des modalités de fabrication de cette activité humaine spécifique qu'on appelle la religion. Parce que c'est une activité humaine spécifique. Donc, fait historique, activité humaine spécifique, c'est aussi un fait social. Ça suppose de prendre l'homme croyant comme un objet de réflexion, à la fois sur le processus d'élaboration de la croyance et sur les formes pratiques de la croyance. Mais je prends un exemple, le pèlerinage de Lourdes. Pourquoi y a-t-il un pèlerinage à Lourdes ? Qui le fait ? Combien ça coûte ? quels sont les âges des pèlerins, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont les modalités, quelles sont les évolutions que l'on peut enregistrer. C'est valable pour la Mecque, c'est valable aussi pour le pèlerinage, pour l'assemblée annuelle, c'est pas un pèlerinage, du musée du désert à Mialet le premier dimanche de septembre. Et dès 1983, le laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales et du CNRS a dégagé, à partir de cette idée du fait historique, de l'activité humaine spécifique et du fait social, un certain nombre d'angles d'attaque du fait religieux. C'est d'abord un fait collectif. La religion a un côté social. C'est évident. Revenons-en à l'étymologie. Religion vient du latin religere, relier entre eux. Ce caractère collectif génère des sentiments collectifs à l'intérieur des communautés. Et ça, ce fait collectif-là, doit être analysé en tant que tel. C'est aussi un fait matériel, le fait religieux. Les religions, ce sont des hommes et des idées, mais aussi le produit de leur activité, des textes, des images, la musique, des expressions artistiques. Peut-on comprendre l'histoire de l'architecture, par exemple, sans comprendre la foi qui a fait s'élever les cathédrales, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Chartres? Donc c'est un fait matériel aussi, le fait religieux. C'est un fait symbolique également. Parce que le religieux, ce sont les hommes, ce sont la trace de leurs œuvres, mais c'est aussi une question de sens. Et le sens, c'est à la fois une signification et une direction. Une signification, qu'est-ce que ça veut dire? Et une direction, vers où on va? Et donc, étudier le fait religieux, c'est étudier les systèmes de sens qui constituent les mondes religieux. Et je pense que c'est utile de savoir s'y reconnaître pour ne pas avoir des visions approximatives. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie au niveau du fait religieux? La réintégration de la fraternité Saint-Pédis à l'intérieur de l'Église catholique. Et la réintégration donc symbolique de Williamson, l'archevêque négationniste. Les faits religieux, ce sont des objets intellectuels. Il faut les décrire, il faut les analyser, il faut voir comment ils évoluent. Enfin, le fait religieux est un fait expérimental ou sensible. La religion, ça nourrit des conduites humaines. Ça nourrit des conduites humaines parfois altruistes et pacifiques, mais aussi des conduites humaines violentes. Il peut y avoir effectivement des chrétiens luttant pour la paix, et il peut y avoir aussi les chrétiens et la croisade. Ce sont des phénomènes sensibles. Il faut pouvoir également les décrypter. En résumé, l'étude du fait religieux est à la fois en soi et pour soi. En soi, ça veut dire qu'on essaye d'atteindre le cœur même de l'expression religieuse jusqu'à son sens. Et pour soi, c'est les relations entre la religion et la société, la religion et l'économie, la religion et la politique, la religion et l'éducation, la religion et la santé, la religion et l'éthique, etc., etc. Deux penseurs, l'un français, Émile Durkheim, 1858-1917, et l'autre allemand, Max Weber, qui a vécu de 1864 à 1920, ont longuement travaillé sur cette question du fait religieux. Et on aura éventuellement, si vous voulez, l'occasion d'y revenir dans les questions. Mais je voudrais maintenant terminer mon exposé par la question qui est une question d'actualité, qui est celle de l'enseignement du fait religieux. Est-ce que c'est susceptible, l'enseignement du fait religieux, de clore définitivement la guerre des deux Frances? L'historien Patrick Cabanel a montré que dans le champ scolaire comme dans le champ de la société, la laïcité à la française sous la Troisième République a été marquée par ce qu'il appelle des tempéraments, autrement dit des accommodements, même des accommodements raisonnables, dirait Bouvéreau. Qu'est-ce que ça veut dire, ces accommodements? Eh bien, ces accommodements-là, on pourrait en trouver des exemples assez étonnants. Premier tempérament de la laïcité scolaire sous la Troisième République et sous Jules Ferry, c'est la question du kilométrage. Alors, qu'est-ce que c'est que la question du kilométrage? S'il y a 2 kilomètres entre l'église et l'école, eh bien, on ne crée pas d'église supplémentaire. Il faut qu'il y ait 2 kilomètres. C'est limité. Mais il y aura effectivement des accommodements avec le ciel. Deuxième exemple. Je trouve la référence. Deuxième exemple, c'est la question des devoirs envers Dieu. Jules Simon, qui est un des républicains de la veille, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ont lutté sous le Second Empire pour la proclamation de la République, pour l'établissement de la République, était favorable à l'inscription des devoirs envers Dieu dans l'enseignement scolaire laïque. À l'époque, il y a eu un refus de la part de Ferry, notamment, qui a indiqué on ne vote pas sur Dieu, donc on n'intègre pas la question des devoirs envers Dieu dans la loi sur la laïcité. Mais finalement, les devoirs envers Dieu ont été intégrés par la Troisième République à l'enseignement de la morale jusqu'en 1923. C'est un autre exemple de ces accommodements. Autre exemple des accommodements, c'est la question des emblèmes religieux. La question des emblèmes religieux, c'est la question de savoir si l'on laissait des crucifix dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prétoires. Vous savez que Clémenceau s'était particulièrement insurgé contre la présence d'un crucifix à l'occasion du procès Zola, au moment de l'affaire Dreyfus. Il s'en était servi d'ailleurs pour un effet de manche, un effet d'audience, en disant l'autorité de la chose jugée, vous la voyez, c'était le Christ sur sa croix, comparant donc le destin de Zola et de Dreyfus à celui du Christ. Mais donc, la question, effectivement, de la présence du crucifix dans les écoles se pose au début de l'application de la laïcité. Et Ferdinand Buisson, qui est un des papes de la laïcité, indique ceci. Le principal objet de l'acte législatif qui a séparé l'école de l'Église, son résultat à la fois le plus immédiat et le plus efficace doit être, non, la transformation des locaux scolaires, mais celle des programmes, des leçons, des exercices, de tout ce qui fait l'esprit de l'enseignement et la valeur de l'éducation. La loi du 28 mars 1802, n'est pas un accident, un fait isolé dans notre législation. En sécularisant l'école, elle ne fait qu'étendre le droit commun et en quelque sorte les principes mêmes de notre Constitution à l'organisation de l'instruction nationale, c'est-à-dire au seul service public qui, jusqu'ici, par une étrange contradiction, eût conservé la tâche confessionnelle. Par conséquent, tout ce qui tendrait à rapetisser cette loi, à la présenter au pays comme une sorte de règlement de police des locaux scolaires, en inaugurer l'application par un semblant de croisade iconoclaste, pourrait bien servir les desseins de ses adversaires, mais en altérerait la notion même et risquerait d'en faire méconnaître par les populations le véritable caractère et leur haute portée. Voilà, il dit, il n'y a qu'une manière, c'est on les enlève quand on est d'accord, et puis quand on n'est pas d'accord, et bien on attend, et on continue. L'essentiel, le fond, c'est les programmes et l'enseignement. Et puis, on a encore un autre exemple. C'est que ça a suscité effectivement une confrontation entre le courant qui était un courant plutôt libéral et puis le courant qui était beaucoup plus intégraliste, comme je disais tout à l'heure. Et il y a une revue de la libre pensée qui s'appelle La Raison, qui de février à mai 1903 publie des centaines de faits regroupés par département pour montrer qu'il y a une cléricalisation encore de l'enseignement. Et j'ai retenu cet exemple-là parce qu'il nous intéresse. On apprend que dans l'arrondissement d'Uzès, ouvrez les guillemets, l'instrument de torture appelé croix se trouve dans presque toutes les écoles de l'arrondissement, tantôt nu, tantôt en guirlandais de rose, tantôt supportant un macabée en plâtre ou en métal. Il y a aussi des statuettes de la fille mère immaculée. Voilà, j'ai trouvé à vous citer ça pour vous montrer qu'effectivement, même après le retour, alors là, légèrement avant 1905, le courant anticlérical a beaucoup bougé. Comment s'articule, et j'en terminerai par là, aujourd'hui le religieux et l'école dans l'école laïque? Il n'y a pas d'enseignement confessionnel proposé. Les églises ne participent pas à l'organisation du système scolaire. Le religieux est-il pour autant absent de l'école? Et si le religieux est abordé, comment et avec quelle finalité? Le point de départ, ça a été donc le rapport Debré, j'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de revenir aux religieux considérés comme l'objet de culture entrant dans le cahier des charges de l'instruction publique, qui a pour obligation d'examiner l'apport des différentes religions à l'institution symbolique de l'humanité, et le religieux comme objet de culte, c'est la différenciation, exigeant un volontariat personnel dans le cadre d'associations privées, c'est la citation de Régis Debré. On a donc créé un institut européen des sciences des religions dont Régis Debré est le président, et créé un module pour la formation initiale des enseignants sur la philosophie de la laïcité et l'enseignement du fait religieux. L'enseignement du fait religieux connaît cependant aujourd'hui un déplacement de sens et de priorité. De la connaissance patrimoniale de la religion, c'est-à-dire la religion comme patrimoine culturel, on passe davantage aujourd'hui à l'intelligence du monde contemporain. Si vous voulez, pour prendre une formule, on passe aujourd'hui de la cathédrale de Chartres aux Twin Towers. Effectivement, la signification de la cathédrale de Chartres, c'est plutôt patrimonial. Les Twin Towers, c'est le rôle de la religion au service de la violence dans le cadre du terrorisme et dans la société occidentale. Le fait religieux, comment est-il abordé dans les programmes scolaires? Il y a une distinction, on le sait, entre l'enseignement du fait religieux et l'enseignement catéchétique. Éventuellement, je reviendrai sur la manière dont les catholiques le conçoivent, parce que dans l'enseignement catholique, il y a également une séparation, une distinction, mais beaucoup plus subtile. Le fait religieux est appréhendé dans le champ des disciplines scolaires actuelles et surtout dans le champ de l'histoire. Par exemple, les programmes des collèges entre 11 et 15 ans étudient plus exactement l'Antiquité, l'Égypte, donc la religion égyptienne, la religion grecque, la religion latine, et un apport spécifique du christianisme et du judaïsme, avec un regard sur l'Ancien et le Nouveau Testament. La diversité religieuse est également abordée par la suite, avec les réformes, c'est-à-dire la réforme protestante du XVIe et la contre-réforme catholique, puis tout le champ islam, Mahomet et le Coran, et puis la question religieuse sous la Révolution française, et la laïcisation, donc le début de la laïcisation de la société française. Au lycée, entre 15 et 18 ans, c'est la naissance et la diffusion du christianisme, la réforme protestante et la contre-réforme catholique, et la Méditerranée du XIIe siècle, la mère des trois monothéismes, c'est-à-dire donc la manière dont s'est constituée culturellement la civilisation méditerranéenne. Mais, on le note, je l'ai dit très rapidement, que l'étude du religieux reste associée aux périodes les plus lointaines, qu'il y a des réticences à entrer dans le cœur des religions. On a toujours une sorte d'approche positiviste des symboles et des dimensions spirituelles. L'accent est mis sur la, souvent sur la collusion entre le pouvoir politique et le religieux. Il existe la collusion, mais l'accent est mis là-dessus. L'accent est mis sur l'Europe, il y a une vision très ethnocentriste, au détriment du reste du monde. On est très européocentriste. Quant aux autres disciplines en dehors de l'histoire, elles traitent peu le fait religieux. Sinon, dans la littérature française, parce que effectivement, il est difficile d'aborder la littérature du XVIIe siècle sans Bossuet et Fénelon, et Bossuet et Fénelon, il n'y a pas que d'ailleurs, et c'est étudié également en matière de philosophie, puisque on est revenu quand même à une meilleure approche de Saint-Augustin, d'Averroès ou de Kant. L'inscription du fait religieux dans l'enseignement procède, me semble-t-il, et c'est par là que j'en conclurai, d'une volonté intellectuelle, d'une volonté patrimoniale, d'une volonté politique pour intégrer le fait religieux au modèle républicain français. En fait, il y a un souci de mieux prendre en considération les héritages religieux de notre histoire et de faire en sorte que on perçoive bien les évolutions de la société française. Le sociologue Jean-Paul Willem dit à cet égard que l'étude historique des religions, si elle n'est aucunement anti-religieuse, heurtera toujours les sensibilités religieuses fondamentalistes qui, dans l'auto-compréhension de leur tradition religieuse, refusent d'intégrer les acquis de l'histoire. L'enseignement du fait religieux en France établit une tension qui est parfois difficile à assumer entre un apprentissage qui doit externaliser ses propres convictions en bonne laïcité et exprimer une empathie suffisante au regard des croyances et des mentalités religieuses, afin de ne pas limiter l'étude aux institutions et aux rites, mais y englober les systèmes de sens et les univers symboliques des religions. Donc, il y a cette tension entre la laïcité, c'est-à-dire, quand j'enseigne le fait religieux, je ne suis pas croyant, mais en même temps, il faut avoir une empathie suffisante pour comprendre la complexité du phénomène religieux. Conclusion provisoire, puisque la définitive, s'il y en a une, sera la semaine prochaine. Cette incursion dans le champ de l'enseignement du fait religieux renvoie bien évidemment aux propos que nous avions au départ sur le public et le privé. Ne pas reconnaître une religion, c'est l'article 2 de la loi 1905, est-ce la méconnaître ? L'affirmation de la dimension collective de la religion met-elle en péril l'espace public laïque ? Dans le quatrième exposé de la semaine prochaine, on verra que la laïcité demeure un combat politique inachevé et que le chemin reste très chaotique entre le 9 décembre 1905 et les discours présidentiels de Nicolas Sarkozy au Latran, à Riyad, et à Paris, lorsqu'il a accueilli, dans la dernière période, le pape Benoît XVI. Je vous remercie de votre attention.